Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le premier numéro de la saison de l'émission Focus Store, le bras radiophonique armé du magazine Focus Vif, pour vous servir cette semaine une revue critique et argumentée de l'actualité culturelle des derniers jours, une belle brochette de mercenaires avec Laurent Raphaël, l'adjudant-chef de Focus Vif.
Affirmatif.
Avec Laurent Aubrex au rapport, premier sergent des pages musique.
Salut.
Et avec le petit lieutenant Olivier Van Varenberg, sous-gradé, responsable des bas stages du magazine, à savoir la chronique des mauvais gens, de tout ce qui se lit qui ne figure pas sur les listes scolaires.
Sir, yes sir.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. On prend le micro toutes les deux semaines pour vous parler d'un film, d'un livre, d'un disque et d'une série, les produits culturels dont tout le monde parle, et on confronte nos avis de professionnels de la critique spécialisés chacun dans un domaine différent. Voici pour les règles du jeu. C'est parti, Focus Store saison 2, épisode 1.
Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire.
La grande bellezza, la grande beauté en italien, c'est le titre du dernier film de Paolo Sorrentino, reparti bredouille du dernier festival de Cannes, mais qui va représenter l'Italie aux Oscars. Paolo Sorrentino, c'est celui qui avait réalisé le fameux Il Divo, où Tony Servillo jouait un ancien chef de gouvernement italien, et c'est toujours Tony Servillo, la figure de proue de La grande bellezza, un film difficile à pitcher, une sorte de mosaïque d'instantané dans la vie d'un homme, d'un journaliste, d'un romain mondain à l'aube de son déclin, entre nostalgie, lassitude et sourire en coin, entre décadence libidineuse et bondieuserie. Un film que j'ai trouvé, malgré tout ça, absolument galvanisant, euphorisant, électrisant, même, que j'ai regardé comme on visite une expo un peu rococo qui réserve une surprise à chaque simèse, un parti pris de mise en scène originale, une fulgurance scénaristique, une question obsédante. Bref, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce film italien, La Grande Bellezza. Laurent, chef, c'est toi qui nous l'a imposé cette semaine, ce film. Alors, est-ce que tu es content de ton choix?
Et tu étais sceptique au départ.
Tout à fait.
J'ai bien senti.
Oui, oui, oui.
Comme quoi, on a eu le nez fin. Bah, Paolo Sorrentino, il est capable du meilleur. Comme tu l'as dit, Livo, il est capable du pire aussi avec This Must Be the Place, où il avait transformé Sean Penn en espèce de coq
à la Kiss,
oui, et à la Cure surtout.
Oui.
Et donc là, il s'était un peu planté, c'était son expérience anglo-saxonne. Et il est revenu à ses sources, à ses racines italiennes, avec quelque chose qu'il maîtrise nettement mieux, c'est ce langage burlesque, un peu baroque, comme tu disais. Et donc moi aussi, j'ai kiffé. Je trouve qu'il y a dans ce film une espèce d'apesanteur comme ça, de légèreté mais à la fois de profondeur. Il mélange les deux dans la critique, la vacuité de ce monde romain mondain qui s'embête et qui voit le monde de l'art comme une espèce de jeu du cirque,
oui.
où ils peuvent dépenser leur argent et tenir de bons dialogues.
Oui.
Et on sent très bien que en regard de ça, ben, dans sa vision romane qui rappelle évidemment Fellini, c'est un peu la version 2013 de la Dolce Vita de Fellini.
C'est ce qu'on dit, oui.
Et on a très fort ça, et notamment dans le regard qu'il porte sur les monuments anciens, le Colisée et autres, où on sent que la splendeur italienne est derrière elle et qu'aujourd'hui ce n'est plus que ce bac à sable de mondain avec tout ce que Berlusconi a pu y apporter.
C'est vrai que pourtant c'est très beau, c'est très joliment filmé, mais ça donne pas du tout envie de visiter Rome.
Enfin, je sais pas si ça donne quand même envie de voir quelques palais quand ils se promènent.
Oui, ça c'est vrai.
Avec les clés,
avec les clés dans les bâtiments, il y a des trucs superbes. Ouais.
Ce qui est très étrange, c'est que moi, ma seule référence en cinéma italien, en gros, c'est Don Camillo et
La Vita è Bella.
La Vita è Bella, c'est vrai. Et Journal intime aussi de Nanni Moretti.
Ouais.
Et dans le journal intime de Nanni Moretti, on le voit comme ça aussi se balader dans les rues de Rome complètement désertes. Et ici aussi, Rome a l'air complètement vide. Il se promène dans des jardins absolument déserts. Même les rues, il n'y a jamais grand monde.
Ah oui.
Alors que
les vendeurs d'ombrelles ont disparu.
Oui, ça donne une atmosphère très très étrange comme ça.
Dans l'ensemble du film, hein, ce qui, enfin,
c'est ça. Mais l'esthétique est, apporte beaucoup au film. Il y a même ce côté presque un peu Kubrickien,
oui, tout à fait.
Dans la manière avec des travelling incessants qui passent d'un lieu magnifique à l'autre, avec des couleurs assez chatoyantes. Et je trouve cette dimension esthétique qui apporte vraiment une touche supplémentaire au film pour faire transparaître l'âme. Un peu ce côté glam mais un peu faux aussi qu'on trouve dans le Rome d'aujourd'hui.
Ouais, tout à fait, moi c'est vraiment ce qui m'étonnait avec l'esthétique. Je suis parti aussi un peu avec des pieds de plomb quand j'étais au cinéma, 2h20, un film italien sur la Rome mondaine et décadente. Ça partait mal. Et tu es pris directement dans les premières minutes du film par l'esthétique et la force purement cinématographique auquel je ne m'attendais pas du tout. Et tu es vraiment pris comme ça. La première scène, on parle beaucoup de la scène de discothèque qui est au début, mais elle est précédée d'une scène complètement bizarre, poétique,
de chorale.
Avec cette chorale allemande.
Oui, oui, oui.
Et tu te rends compte que tu arrives dans un objet qui va être tout à fait particulier, avec une ambiance vraiment... très très original, qui me fait pas trop penser à Fellini justement. Il y a dans le cinéma italien.
Mais c'est la version décadente, un peu complètement postmoderne.
Très propre aussi au niveau de l'image, comme tu dis. Il a vraiment travaillé son esthétique, son image, la caméra est jamais en place.
Ouais,
dès les premières scènes, c'est des travelling en permanence, il ne s'arrête jamais quoi. Et donc à part ça, voilà, à part le film évidemment, l'acteur est incroyable, c'est étonnant qu'il soit parti de Cannes sans un prix d'interprétation parce qu'il est vraiment le Romain mondain
décadent, il est parfait,
il est fort, il a une force.
Quel charme, quel charisme, c'est fou.
Tout à fait, donc là-dessus ça marche très très bien, ça frôle de temps en temps le film à sketch un peu parce qu'effectivement c'est des scénettes après des scénettes où c'est des charges énormes sur l'art contemporain, sur la religion, sur ce monde-là de mondain décadent en fin de règne.
Avec son petit côté fric parfois.
Avec des nains, avec des gros, avec des vieux.
Et à la limite, c'est le seul petit problème que moi j'ai eu avec ce film.
C'est typiquement italien, hein, c'est ce côté un peu burlesque qu'on retrouve quand même dans la tradition du cinéma italien aussi. C'est de mélanger un peu le côté populaire avec le côté fric, puis cette culture hyper pointue et un peu latine. Enfin, je trouve que ça fonctionne bien ici.
Ah ouais, tout à fait, il a vraiment compris l'ensemble, la manière, le langage de ce monde-là. Il faut dire aussi que la langue fait partie intégrante du plaisir de ce film. Je ne suis pas spécialement italien, je ne parle pas italien, je n'ai pas une passion des langues, mais la manière dont il parle, dans cette voix off, parce que l'acteur, enfin le personnage parle beaucoup, il l'entend, et ça fait vraiment partie du côté hypnotisant, un peu vénéneux, comme ça, du film, la manière dont il scande, il dit ses paroles, c'est magnifique, quoi. C'est pas à voir en français.
C'est un vieux clown fatigué, parce qu'au-delà du portrait de société, c'est quand même aussi un portrait très fort d'un personnage en train de vieillir, il a 65 ans, et qui commence un petit peu à se demander ce qu'il a fait de sa vie, puisqu'il a oublié ou il n'a pas écrit pendant 40 ans depuis le succès de son livre. Et donc on sent comme ça que les questions commencent à submerger et que son parcours, ou là où on le saisit, est en plein doute. Il y a une forme de mélancolie qui s'installe et qui est assez vraiment touchante, quoi.
Moi, ça m'a aussi un peu fait penser à Holy Motors de Léos Carax. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film aussi. Je trouve que j'avais complètement détesté Holy Motors parce que je trouvais hyper prétentieux.
Il y a une utilisation des travelling comme ça très fort aussi, très important.
Et puis aussi tous ces instantanés dans la vie d'un homme qui changeaient à chaque fois dans Holy Motors. C'était pas le même personnage, mais autant j'avais trouvé l'autre insupportable.
Il y a un côté
très
contemplatif dans ce film. Il faut expliquer qu'effectivement, si j'aurais 18 ou 19 ans aujourd'hui, je suis pas sûr que j'apprécierais ce film comme j'en ai 40 aujourd'hui. Il y a un côté contemplatif très artistique au sens premier du terme.
Ouais, comme une expo, quoi. Comme aller voir une expo d'art contemporain où on comprend pas toujours tout et on n'a pas l'audio guide pour nous donner des explications. Mais on s'en fout, c'est pas grave en fait.
Ouais, on ressent beaucoup de choses et vraiment on est pris par l'esthétique de ce film, encore une fois, qui est surprenante. Et on parle toujours de Fellini, du cinéma social italien, il n'y a pas ça ici. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une critique sur l'ensemble des Romains et de Rome et ce qu'est Rome aujourd'hui. C'est sur un milieu très particulier.
C'est Fellini qui a traversé les années Berlusconi, quoi.
Peut-être.
Donc il y a cette couche de pseudo-glamour. On voit bien, c'est un univers qui rappelle Versace. Enfin, il y a tout ce côté-là un peu bling-bling.
La science de Botox, c'est...
Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est Berlusconi qui est passé derrière Fellini et il y a une espèce de mix entre les deux et ça fait un objet vraiment, vraiment touchant.
Laurent, tu étais dans la même salle de cinéma que moi hier. Oui.
Il y avait tellement de monde.
Mais oui, c'est dingue. Je pensais vraiment que cette salle est déserte et pas du tout, en fait. J'ai même eu du mal à trouver une place où m'asseoir.
Absolument. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai été fasciné par ce film, par les images. Certaines sont d'une beauté absolument fascinante. Et alors, je trouve que ce qui m'a un peu dérangé, c'est peut-être les 20-30 dernières minutes.
Oui, avec la sainte édentée.
Religieuse.
Le burlesque, ça fait partie du... du charme du truc. À un moment, ça vire vraiment où on frôle un peu le ridicule. Mmh. Voilà, il est assez doué pour ne pas tomber dedans, mais on est quand même limite. C'est peut-être le moment où voilà, moi j'ai un peu décroché, mais.
Et vu que c'est ton rayon au niveau musical, qu'est-ce que t'en as pensé?
C'est magnifique. Oui. C'est un mix de Bob Sinclair.
Mais oui, limite on a envie de l'écouter, quoi.
Mais cette chanson, et j'ai entendu les explications du réalisateur sur cette chanson, qui dit que c'est une chanson qui n'a pas de refrain, pas de couplet. C'est toujours la même chose qui revient, qui s'en boucle.
Super obsédant.
C'est exactement un peu à l'image de la vie que mène cet écrivain qui est
où
tous les jours se ressemble, où tous les jours se répète, où les fêtes qui sont censées être ce moment un peu particulier et unique qui te sortent un peu de ta vie quotidienne, sont finalement toujours un peu les mêmes. Exactement. Et donc moi je trouve ça plutôt pas mal en fait.
Ouais, j'ai commandé le CD. je te le prêterai.
Avec plaisir.
Bon, on va lui mettre une petite cote puisque c'est la tradition. Moi je vais lui mettre bien un 9 sur 10 parce que je suis encore complètement euphorique de cette séance.
Moi je l'ai pas vu hier, je l'ai vu la semaine passée, donc je vais mettre un 8, mais c'est un 8 enthousiaste. J'ai vraiment été surpris dans le bon sens du terme par ce film.
Oui, sans la fin, comme disait Laurent, oui. J'aurais mis 8 et du coup je reste sur un bon 7.
D'accord.
Un bon 8 pour moi.
C'était donc La Grande Bellezza. À noter que dans les pages de Focus, Jean-François Pleguers a mis 3 étoiles sur 5 à ce film. Sur 10, ça fait combien ça? Ça fait 8, voilà, c'est ça.
Il était plus enthousiaste.
Il a mis un 7 sur 10, d'accord. En évoquant un portrait fascinant d'un écrivain mondain au fil de ses déambulations romaines désabusées avec un épatant Tony Servillo. On passe tout de suite au bouquin, celui de Karine Thuil, L'invention de nos vies, sérieux candidat au Goncourt qui sera décerné le 4 novembre prochain. C'est un roman qui croise deux destins mis en miroir, celui de Samir et de Samuel, copains d'université qui ont partagé la même fille, si je puis dire, laquelle a finalement choisi le plus faible des deux, celui qui a menacé de se suicider si elle le quittait. Alors Samuel essaye de devenir écrivain en banlieue parisienne, Samuel est juif. Samir, musulman, lui, il fait une brillante carrière d'avocat à New York. Le hic, c'est que cette dernière est articulée autour d'un gros mensonge puisque ce fils de femme de ménage tunisienne se fait passer pour juif aux États-Unis histoire de déjouer ce qu'il croit être un délit de sale gueule et d'intégrer les cénacles propres au milieu. Une fausse façade qui va s'effriter au fil des pages et mener à un suspense haletant doublé d'un triangle amoureux assez intense. L'invention de nos vies, c'est un roman que j'ai dévoré, que j'ai même englouti. Je trouvais que c'était un vrai bon divertissement, écrit avec précision, mais un bémol quand même du côté des notes de bas de page qui expliquent la vie de ceux qu'on croise dans le bouquin mais que finalement on ne connaît pas, qui je trouve sont une coquetterie un peu vide, et puis aussi du côté des clichés sur les riches, sur les pauvres, sur les juifs, sur les musulmans, sur les hommes, et surtout sur les femmes, ce qui est étonnant pour une auteure féminine. Mais à part ça, je dois dire que j'ai passé un très bon moment autour de ma petite piscine en vacances. Qu'est-ce que tu en as pensé, Olivier ?
Écoute, comme je te l'ai dit, Myriam, il faut vraiment tomber sur un bouquin extrêmement mauvais pour ne pas l'apprécier à côté d'une piscine.
C'est vrai, c'est vrai aussi.
Ce qui explique peut-être ton enthousiasme. Donc, j'en ai eu un peu moins. Je rejoins tout à fait ce que tu as dit, le pitch et les critiques que tu en as. Les notes de bas de page, c'est une coquetterie, mais que j'ai trouvé amusante. Une des rares choses amusantes dans le bouquin, alors qu'elle était connue jusqu'ici. Elle est à son 9e roman, Karine Thuil est installée. Elle est connue aussi pour mettre un certain humour, un peu d'autodérision dans son bouquin. Ici, j'ai trouvé au contraire assez sérieuse et très premier degré. Et donc, qu'en dire ? Effectivement, donc on suit le parcours essentiellement de deux personnes, Samuel et Samir. Samir qui a pris l'identité de Samuel pour réussir en tant qu'avocat juif, alors qu'il est musulman d'origine. Et le Samuel qui a en gros raté sa vie d'écrivain et qui va essayer de refaire sa vie. Donc il y a deux trajectoires en parallèle, une qui part de très haut et qui va tomber très très bas, puisqu'on va le retrouver pratiquement dans une prison à la Guantanamo, et il va tout perdre, le Samir qui s'est fait passer pour Samuel, et le Samuel va se retrouver avec une vie d'écrivain réussie après 20 ans d'échec. Ouais. Donc c'est vraiment deux univers en parallèle qui se font comme ça, et le problème c'est que aucun des deux ne m'a passionné. Donc j'ai eu très peu d'empathie pour les personnages et je trouvais que les enjeux finalement étaient sains et était assez fin malgré l'ambition du bouquin, parce que on retrouve
mais quelle était l'ambition du bouquin d'après toi?
Je pense que c'est de parler des thématiques qui sont chères à Karine Thuil comme d'habitude. Ça, on revient beaucoup sur l'identité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit juive, musulmane, sur les effets de domination, les rapports entre...
Mais elle n'approfondit rien, c'est ça, voilà, qui est un peu gênant.
Ça,
elle emballe tout ça dans des recettes de page turner comme on dit aux États-Unis.
Oui, oui.
Et donc c'est un bon roman d'été, de vacances, avec un petit peu de profondeur parce qu'elle effleure cœur quelques sujets un petit peu chauds. Ça m'a d'ailleurs même fait penser par moments à Homeland dans ce côté.
Ouais, ça devient un peu grotesque pratiquement, je trouve, cette partie du bouquin, pardon, où le personnage principal a un frère qui est musulman et donc.
Mais faut pas tout dire, hein!
Bon, on va pas le dire, mais c'est vraiment le gros cliché un peu serait musulman. C'est ça qui m'a aussi un peu gêné, tu l'as dit dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de clichés. C'est finalement, le juif réussit à New York en tant qu'avocat, le musulman ne réussit pas en France parce qu'il y a la fracture sociale. Le personnage de Nina, qui est la troisième personne du triangle
amoureux, la femme fatale,
est quand même très très plate et victime du début à la fin pratiquement dans le bouquin. Donc c'est ça qui est étonnant. Il y a beaucoup d'ambition, on en parle beaucoup, on l'a présenté comme un bouquin important à la rentrée littéraire, mais finalement, comme t'as dit Laurence, ça creuse pas beaucoup. Moi j'ai pas senti un souffle incroyable.
Il y a une niaiserie des personnages qui changent d'avis et d'humeur d'une page à l'autre, mais d'une manière
niaiserie où je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cynisme.
C'est intéressant parce qu'il a un côté rastignac moderne là-dedans. Je trouvais que ce personnage en soi bouffé d'ambition, qui est prêt à tout pour faire l'ambition, qui est un libertin, qui l'assume complètement pratiquement jusqu'à la fin, là-dessus il n'a pas de remise en question, mais pour le reste je trouve ça va pas
se réveille comme ça tout d'un coup, on se demande un peu pourquoi par rapport à son identité, ça lui pose pas de problème, puis du jour au lendemain ça devient problématique
sur un mot de sa maman.
Moi j'ai trouvé que justement il y avait des ruptures comme ça dans la cohérence narrative, où on se demande un peu, on a du mal à enchaîner parce qu'elle nous propose de passer d'un état d'esprit à l'autre et on ne s'y retrouve pas. Je peux peut-être lire un petit extrait qui montre
pendant que tu le cherches. Au niveau de l'écriture justement, ce qui m'a un petit peu gêné, il y a la maladie française générale dans ce roman, de tous les romans français qui sont beaucoup basés, au contraire de l'anglo-saxon qui est basé sur le dialogue et qui fait beaucoup passer de choses dans l'action. Ici on est quand même beaucoup dans la contemplation, dans la réflexion intérieure, et on se retrouve avec des pages certes très bien écrite, mais de 20, 30, 40 pages, sans action, sans dialogue, qui ne sont que des...
Mais comment tu expliques alors que le propos soit justement pas plus dense, que le portrait psychologique soit pas plus épais?
Parce que justement, elle veut en faire trop, j'ai l'impression. Enfin, de la manière dont moi je l'ai lu, elle veut évoquer plein de sujets différents. On a le dit, il y a l'identité et musulmane et juive, l'identité américaine, la fracture sociale, il y a toute une partie du bouquin qui est consacrée un peu aux affres des écrivains.
Oui, et ben j'ai trouvé que c'était une des plus réussies, moi, le côté obscur de la réussite.
Oui, ok, le côté obscur
du succès
de la réussite,
plutôt que de la réussite.
Le côté, un écrivain doit se salir les mains. Il y a tout un côté doloriste comme ça, complètement.
Mais je pense que
souffrir.
Oui, mais je suis pas. Enfin, je pense que c'est conforme à la réalité.
Sur la réalité d'être d'écrivain.
Ah,
j'ai plein d'interviews d'écrivains qui disent qu'ils sont très heureux, qu'ils n'ont pas besoin de souffrir pour essayer d'écrire des bons bouquin, mais laissons lire.
Oui, non, c'était pour revenir sur cette idée, justement, je trouve, du côté un peu irréaliste parfois de l'histoire, pour situer. Donc, il a fait venir sa maîtresse à New York, il l'a planquée dans un appartement où elle sert un peu de sextoy quand il en a envie. Et alors, il s'étonne qu'elle ait des envies d'autre chose, alors que lui, c'est quand même un avocat brillant, malin, qui a su se créer une identité. Et il s'étonne que cette fille qui est cloîtrée là dans cet appartement, elle veut un enfant. Et voilà comment la scène se déroule. Samir appréhendait ce moment, il pensait qu'elle en avait fait le deuil de la maternité. Il l'espérait, elle n'en parlait plus, et voilà qu'elle recommençait. C'est impossible, il le lui rappelle. Ils sont bien ensemble, il l'aime, il s'aime, ils sont libres, sans attache. Pourquoi créer un problème? Un enfant ne ferait que compliquer les choses. Un problème, elle insiste, tu me l'avais promis avant que je parte. Il a promis peut-être, il a affirmé cela dans un excès de confiance, d'amour. Il faut être réaliste, il est marié, il a deux enfants. Il ne peut pas prendre le risque de détruire tout ce qu'il a construit. Voilà. Je trouve que c'est quand même un peu... Enfin, on a du mal à suivre le bonhomme qui est dans cette situation et qui va tout d'un coup douter que sa maîtresse va vouloir construire quelque chose d'autre. Et sous prétexte que lui est marié, elle devrait accepter une situation complètement dégradante. Voilà, je trouve ce genre de choses, moi, me met à distance du bouquin, et ça manque de cette profondeur qui peut faire un grand livre.
Et comme tu disais, c'est étonnant qu'au niveau des personnages féminins, qui sont quand même très clichés,
c'est incroyable,
d'une auteure qui est installée, qui est aussi connue pour ça, ici on se demande un peu, on sent que la personnage de Nina, pour reprendre elle, a été traitée un peu presque à la va-vite comme ça, on creuse pas trop son le pourquoi du comment.
Ces fameuses femmes de 40 ans qui ont encore des corps de jeunes filles et de gros seins lourds, on en a un peu soupé.
Alors qu'il y a un pitch intéressant au départ, qu'elles choisissent le plus faible, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui est finalement pas très creusé.
Vous n'avez pas la sensation qu'il y a une forme de recette derrière, qu'elle a ouvert les journaux des trois dernières semaines et qu'elle a pris un peu tout ce qui s'y trouvait. Il y a un petit côté DSK parfois dans la description du personnage. Il y a ce côté djihadiste, toutes ces références un peu à l'actualité, comme pour emballer, rendre l'ensemble assez titillant parce que ça nous parle, c'est encore là frais dans la mémoire, mais que ce n'est que ça, un bel emballage et qu'au fond à l'intérieur c'est finalement très vide et relativement bon. Il y a une nervosité dans le style, hein, c'est pas complètement plat,
non, je trouve ça plutôt,
c'est ce qui rend l'ensemble plus ou moins digeste, mais voilà, ça ne fait pas un bon roman, on est d'accord.
Oui, enfin tu es d'accord.
Je suis d'accord.
Tu te souviens encore de ta piscine?
Oui, mais c'est vrai que je me souviens plus de la piscine que du roman. Ça veut peut-être dire quelque chose.
D'accord, donc.
Laurent, quelque chose à ajouter ou...
Non, je trouve aussi que les personnages féminins étaient assez troublants, quoi. Que ce soit en effet le Nina, qui est donc la fille qui est partagée entre les deux, entre Samir et Samuel, ou même la mère de Samir,
oui.
C'est ça,
oui.
Le message en gros, c'est de dire dans les deux cas que ces femmes sont libérées uniquement quand elles sont quand elles ont quitté leurs hommes, que ce soit leur mari, leur compagnon ou même leur fils. Enfin, il y a un côté, les hommes sont coupables de tout, manipulateurs.
Mais c'est vrai.
Mais oui. C'est des thématiques qu'on retrouve beaucoup chez Karine Tulle, qui a fait des bouquins vraiment que là-dessus, sur la domination, les rapports hommes-femmes. Elle est très branchée là-dessus, sur la persécution. Naturel des rapports de couple.
Ne le dis pas avec autant d'ironie.
Mais il y a des thèmes comme ça qui sont très proches aussi du roman américain un peu tout venant. C'est l'usurpation d'identité, l'engrenage fatal. Et c'est ce qui rend le truc assez addictif. Hein. Et c'est ce qui sauve un petit peu les
mêmes. Justement, sur ce thème-là du mensonge et la manière dont tu es pris dans le mensonge, on a lu des romans qui sont infiniment plus forts sur cette thématique-là précise, Ne fût-ce que l'adversaire, par exemple.
Bon, je vais encore donner la meilleure cote, j'imagine. Moi, je lui ai mis 7 à l'invention de nos vies.
Bon, ça va, ta piscine n'était pas si belle que ça, c'était pas...
Non, mais je me rends compte que c'est pas un énorme roman, mais c'était un très bon moment.
Petit 6,5.
Oui, moi j'en reste à 5.
6.
C'est donc un roman paru chez Grasset. L'album du jour, c'est celui du rappeur canadien Drake, Nothing Was The Same. Je vais vous passer la parole très vite parce que, contre toute attente, ce disque ne m'a pas vraiment intéressée. Pourtant, dedans, il y a tout ce qui fait le succès de Drake et tout ce qui marche un peu sur moi d'habitude. Du rap un peu sexy, un peu cheesy, un timbre un peu raillé et des mélodies au tempo adapté à l'amour. Tout ça passe fort bien dans une soirée un petit peu caliente, mais j'ai pas trouvé de morceau définitif ou classique, contrairement à l'album précédent dont je retiens particulièrement Practice, qui est pour moi le morceau le plus torride de ces dernières années. Ton avis pas tenté, Laurent Houbrecht, toi qui es chef des pages musicales.
Myriam Leroy.
Mais oui, je sais.
Moi, je pensais que vous alliez vous jeter.
Mais oui, mais non.
Dans ce qui
mais
est non. Un peu le. C'est un troisième album et c'est un peu l'album. La consécration, je sais pas très bien comment dire, mais.
Populaire, voilà.
Ouais, qui est à la fois populaire, mais en même temps, c'est Drake et il change finalement pas grand chose à sa recette, à ce qu'il fait depuis le début, sauf que là, c'est. Il a affiné, il a peaufiné et on en arrive un peu à l'essence de ce qu'il propose, quoi, c'est-à-dire du rap qui au lieu de le rap, c'est en grande partie, ou en tout cas une grosse partie de la culture rap, c'est basé sur l'ego trip, parler de soi, souvent en roulant un peu
des mécaniques,
et ici c'est pas vraiment le cas et c'est pas le premier à amener ça.
Non.
Kanye West, par exemple, le fait depuis des années. Il en fait son, il en a fait son fond de commerce, mais de manière beaucoup plus caractérielle. Ouais, l'ego trip et du côté un peu psychotique et complètement caractériel, de manière souvent très virulente. Ici, Drake, il le fait de manière beaucoup plus feutrée, beaucoup plus psychologisante, c'est un peu fort. Enfin voilà, il est beaucoup plus dans l'introspection et dans un truc peut-être plus pastel, on va dire.
Il est un peu à part aussi dans le monde du rapin, avec ses origines un peu plus bourgeoises que la moyenne. Son passage par le soap opéra,
ce qui n'est pas quoi. Ce qui n'est pas une critique en soi.
Non, non, tout à fait. Mais donc, il ne peut pas, en effet, jouer. Mais il y en a plein qui le font. Un rappeur comme Rick Ross était gardien de prison et il s'est passé aujourd'hui pour un gangster. Donc, voilà, ça fait partie du jeu et il aurait pu le faire. Ici, il n'est pas trop dans ce systématisme-là.
Oui, mais au-delà de ça, est-ce que tu l'as aimé?
Moi, j'ai complètement adoré ce disque. Bah, il faut en effet rentrer dans ce genre de format et de proposition-là. Mais une fois qu'on l'a accepté, et apparemment, il y a quand même pas mal de monde qui l'a accepté, parce qu'aujourd'hui, Drake, c'était la tournée la plus rentable dans le circuit hip-hop en 2012. Il a gagné un Grammy pour son deuxième album.
Parce que c'est quand même exigeant. J'ai pas spécialement accroché sur l'album, mais comme tu dis, il y a une proposition. Je vais citer du Laurent Aubry. Tu avais parlé de bourdon flamboyant dans ton papier.
Ah oui.
Et je trouve que c'est parfait. C'est vraiment ça. Il y a un côté spleen dedans, un côté très. C'est pas du rentre dedans, pas du tout. Ça ne décolle jamais. Il n'y a pas un morceau qui s'énerve un peu plus que les autres. Et il y a une proposition qui est finalement assez exigeante.
Mais quand même très émo. Qui peut toucher un large public.
Sans doute, il y a
ce
calibrage
qui me gêne, quoi, ce côté émo,
dans lequel on sort sans doute à nos vieux âges, mais voilà, il y a une proposition. Je trouve qu'il y a quand même une certaine exigence dans les morceaux. Il n'y a pas de hit préfabriqué immédiat, naturel.
Oui.
Tu peux dire celui-là, il va sortir, il va cartonner.
Deux, trois, quand même,
je ne sais même pas lequel est le single, par exemple. Je n'ai pas réussi à déterminer.
Il y a eu Hold On, We're Going Home, par exemple.
Pardon.
Les morceaux un peu le plus poppy,
qui est pour moi un peu le pire de l'album.
Enfin bref.
C'est le fond un peu super R&B comme ça, derrière chaque morceau qui traîne, qui moi me gêne un peu.
Je préfère la première partie qui est un peu plus rêche que la deuxième partie qui là flanche complètement et tombe dans ce côté émo et comme tu dis un peu sirupeux. Là vraiment moi j'ai du mal quoi. Je trouve
c'était Seth Gecko, le rappeur français, qui disait nous on fait du rap. Qui en a sous les aisselles, du rap avec des poils sous les bras, et ça c'est du rap qui sent le patchouli quoi. Enfin, qui sent le...
Mais voilà. c'est pas ça qui m'embête par rapport à l'album, c'est plus l'enchaînement. C'est un peu long, je trouve, 16 morceaux sur il aurait pu s'en passer de quelques-uns. Il y a un peu trop, il y a quand même effectivement une certaine ambition. Tu sens que le gamin qui a quand même 26 ans, il a 3 ans, 3 albums, il n'est pas une énorme carrière. Tu sens qu'il est installé, il va raconter des choses. De fait, il a un succès qui moi m'étonne un peu par rapport aux propositions qu'il fait au niveau musique, mais c'est une question de génération sans doute.
Sa voix, parce que toi tu n'as pas de souci avec sa voix, je trouve que moi sa voix m'agace.
Ouais, moi aussi.
Je préfère
juvénile,
dans la même veine
à Lil Wayne. Qui peut en effet laisser hacker, mais
voilà,
mais c'est cette école là, c'est cette génération là tous ceux là ils ont le même genre de voix un peu nasillarde, comme tu dis. Je trouve moi plus juvénile. Ça m'embête quand on a aimé le Wu-Tang. Tu voyais un morceau où il cite le Wu-Tang dans le titre, j'avais quand même envie de m'énerver parce que
que ça punch un peu.
Voilà. Il y a bien un rap avec des trucs sous les aisselles, c'était bien le Wu-Tang, ce qui n'est pas le cas ici, donc tu te demandes un peu la référence presque gratuite.
C'est pas le meilleur rappeur aujourd'hui en activité, mais c'est celui qui est peut-être le plus efficace, ou qui en tout cas a trouvé un truc qui maîtrise, qui fonctionne, qui propose un truc vraiment original. Le premier morceau, par exemple, il fait 6 minutes, il n'a pas vraiment de couplet ni de refrain, il est structuré bizarrement en trois phases comme ça. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant.
Est-ce que tu sens, tu retrouves le rap canadien? Est-ce qu'il y a une école, si tu identifierais une école canadienne dans le rap?
Il y a quelques artistes comme ça, comme Bucks 65 ou moi j'ai bien aimé cet album. Ils ont une utilisation de la percu un peu sèche comme ça, que tu retrouves dans les 2-3 premiers morceaux. Bon, à part ça, ma culture s'arrête là.
Ils font plus penser à du Kid Cudi ou des choses que je préfère personnellement.
Et alors, est-ce qu'il existe une école canadienne en matière de hip et de hop?
Non.
Quoi?
Non, pas forcément. En plus,
enfin, ici, il a invité tellement de monde.
Très américain.
Il y a Chili Gonzalez qui fait les pianos.
C'est vrai.
Bon. Voilà, on en a fini avec
Drake. Apparemment, je vois que ça n'a convaincu personne, mais...
C'est un peu devenu le bouc émissaire, si j'ai bien compris.
Oui, apparemment, il est détesté.
Un peu de tous les côtés. Ouais.
C'est un peu le syndrome de Lana Del Rey qu'on a porté.
Ça fait penser.
Sauf qu'il a quand même 3 albums. Pour la proposition du gars, tout à fait.
Et qu'il propose quelque chose, un petit pas de neuf d'intéressant.
Bon, moi, je lui mets 6, ce qui est bien, mais pas top.
Et je vais mettre 7 pour marquer la différence.
Moi, 4.
Ah oui.
Ah, 8.
D'accord.
Sur le chef.
On parlait de Nothing Was the Same, le nouvel album du rappeur canadien Drake.
My name is Piper Chapman. Time to say goodbye.
I love you so much.
I carried a suitcase of drug money once, 10 years ago.
Do you know about all this?
She failed to mention the lesbian lover who ran an international drug smuggling ring.
That's all good.
You were a lesbian?
At the time.
Smile.
I wasn't ready.
Tough shit.
It's just like the Hamptons, only fucking horrible.
You're leaving in a body bag.
Just getting started.
Et enfin, on termine avec une série Netflix, qui est, je vous le rappelle, le plus gros site de VOD américain, qui en doit déjà l'excellent House of Cards. Orange is the New Black, c'est le nom de cette série, inspirée d'une histoire vraie, créée par la créatrice de Weeds et qui a été le phénomène de l'été aux États-Unis. Ça se passe donc en prison, autour de Piper Chapman, une petite blondinette bien BCBG incarcérée, pour avoir trempé 10 ans plus tôt dans un trafic de drogue. Et c'est son ex-petite amie qui l'a fait tomber au moment où elle s'était tellement rangée des bagnoles qu'elle s'apprêtait même à se marier avec un jeune homme bien sous tout rapport. Découverte de la privation de liberté, des vexations quotidiennes, de la promiscuité, des petites et grandes cruautés, des matons, mais aussi d'une certaine forme de joie, de sororité, il paraît que c'est la manière moderne de la fraternité féminine, et de tensions sexuelles entre filles, beaucoup quand même. C'est drôle, c'est cru, gentiment cru quand même, et c'est porté par un personnage que j'ai trouvé très 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 attachant, incarné par une actrice qui s'appelle Taylor Schilling. Rien de fondamentalement révolutionnaire, mais du bon gros plaisir en bar pour quand on est un peu crevé dans son lit. Je sais que, chef, toi, tu as aimé aussi.
Oui, j'ai bien aimé. Pourtant, c'était mal parti parce qu'après 10 minutes, on avait eu droit au mec qui pétait dans son lit,
oui,
et la nana sur les toilettes. Je me suis dit, ça y est, c'est nouveau, la Vance Cato américaine.
Oui, surtout que le mec, c'est celui de American Pie. Donc
oui, exactement. Oui, contractuellement, voilà, il est obligé de se masturber dans toutes ses films.
Oui, c'est ça, dans une
Donc là, je redoutais le pire après 10 minutes. Et puis, petit à petit, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe. D'abord, c'est une série qui prend son temps. Elle est dans un format relativement long pour chaque épisode, ce qui permet de creuser à la fois le personnage principal, mais aussi de venir, et c'est ça qui est intéressant, et c'est souvent ce qui fait la qualité d'une œuvre de fiction, c'est ces personnages secondaires. Et je trouve qu'ici, aussi bien les matons que ces co-détenus,
ah oui,
sont quand même bien tapés, ces personnages, soit drôles, soit pathétiques, mais enfin, c'est l'occasion de dresser des portraits de personnages assez sympas. Et donc voilà, on se laisse porter par ce ton un peu cru, et comme tu disais, ça demande pas une réflexion approfondie, mais les dialogues, le côté assez direct, bon, c'est vrai qu'ils en ont un petit peu, ils ont cette petite manie de mettre du sexe à toutes les sauces, ça devient un peu écœurant, mais enfin bon, voilà, on peut dire que dans cet univers apparemment clos, ça a l'air très très préoccupation,
oui,
assez importante, mais voilà, il y a ce côté aussi déniaisé, où les personnages, il y a aucun personnage qui n'est ni bon ni mauvais, et ça fonctionne quand même toujours bien de mettre un personnage dans un univers qui n'est pas le sien et de voir comment ça se passe, qui est le cas ici de cette petite nana BCBG qui se retrouve au milieu de...
Qui est super, je trouve qu'elle a des expressions...
Ce qu'elle minote pas par moment.
Pas du tout accroché justement sur l'actrice principale.
C'est vrai.
C'est vraiment, elle est vraiment par moment borderline, comme l'est un peu la série dans son humour. Où, je crois que c'est dans le premier épisode forcément, où quand elle rentre... en prison, et donc elle vient avec son fiancé, ils se séparent, et le dernier mot c'est je t'aime, tu vas me manquer, et surtout n'oublie pas d'actualiser ma page, mon site internet, enfin, une espèce de, c'est la phrase de trop, quoi, c'est l'espèce,
oui,
de second degré de trop qui
mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu assumé, c'est un peu assumé, ces petits pas de côté où ils prennent presque le téléspectateur à partie, et qu'on retrouve quelque part aussi même dans le décor un peu carton-pâte de cette prison, où t'as l'impression que tu pousses les murs, tu vas passer à travers, et c'est peut-être un peu le côté soap, mais assumé, revendiqué. Oui. Et moi qui ne suis pas client du format soap, ici je trouve que dans les dialogues, dans le côté piquant, et qui font même parfois penser à du Woody Allen. Cette nana qui est complètement perdue, tu retrouves un peu des personnages comme ça féminins de Woody Allen, qui ne savent plus très bien, qui passent par des hauts et des bas d'une seconde à l'autre, et qui étalent ces névroses dans un univers qui les oblige à sortir un peu de leur train-train. Et je trouve que ça fonctionne bien, parce que c'est revendiqué avec un ton assez cash, qui moi me plaît bien, et qui me fait souvent rire en fait. Je me gondole plusieurs fois par épisode.
Ah oui.
Moi, c'est ce qui m'a gêné dans cette série. J'ai beaucoup moins accroché que vous, a priori. Mais bon, une des explications, c'est que je l'ai vu en français, effectivement, en version française.
Oui, mais ça, c'est vraiment.
Je crois que ça enlève 20, 30, 40, 50%.
Oui, il faut vraiment pas le faire. Plus, je pense.
Et donc, j'ai trouvé que les acteurs étaient pas terribles. En fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a. Ça aurait pu donner soit quelque chose d'extrêmement drôle, soit quelque chose d'extrêmement dur avec les prisons pour femmes, et qu'on est entre les deux.
Oui, et ben c'est ça que je trouve justement intéressant.
Mais moi, c'est ça qui m'a gêné. C'est pas à mourir de rire. Moi, j'ai pas beaucoup ri devant la série. Et les moments dramatiques ne sont pas si dramatiques que ça. Il y a toujours un entre-deux comme ça qui m'a laissé un peu sur le côté. Oui, il y avait de quoi faire une sorte de mash des temps modernes qui aurait pu donner quelque chose ou de fort, ou d'absurde, ou délirant. Et je trouve qu'on n'est jamais ni dans l'un ni dans l'autre.
Ah oui, c'est vrai.
Qui m'a le plus gêné.
Tu as raison, mais je trouve que justement, c'est ça qui fait l'originalité de cette série, être un peu... Tu sais jamais vraiment ce qui t'attend. Est-ce que ça va être un truc un peu... Oh, non. Non, c'est plutôt feel-good.
Ouais, ça désamorce.
C'est très feel-good comme ça.
Parfois c'est très cruel, parfois c'est très feel good. J'aime bien ce petit ping-pong.
Ouais, mais du coup, tout ne marche pas non plus. Parce que les transitions parfois sont pas parfaites. Et donc, du coup, moi ça me pose pas de problème qu'il y ait finalement un mélange des genres. Mais c'est les transitions sont pas toujours forcément bien
assumées. Elles fonctionnent quand c'est dramatique, c'est pas extrêmement dramatique. Alors que tu peux te dire dans une prison pour femme, il y a sans doute des moments de tension que tu aurais pu faire où tu as peur pour le personnage.
À la fin, je pense que tu n'as pas été jusqu'au bout. Tu as vraiment peur pour le personnage.
Parce qu'il y a un côté sketch qui est un peu assumé. C'est vrai que du coup, dans ces tensions, et c'est ce qui fait qu'il y a des petites ruptures de rythme qui sont parfois un peu gênantes. C'est que ça ne c'est pas toujours au top au niveau de l'intensité. Ça retombe, mais ça épouse le rythme plutôt des dialogues et des petites scénettes qu'elle veut développer.
Je trouve que le problème, c'est la grande qualité du truc, c'est que la qualité de cette série, c'est qu'il y a énormément de personnages et féminins, et ça fait énormément de bien, je trouve, par toutes ces têtes.
Je suis d'accord.
Et c'est des vraies gueules d'atmosphère.
Ouais, vraiment.
Les mecs sont aussi très clichés. Le gardien moustachu
avec sa
l'ordure de base, c'est vraiment l'ordure de base comme tu le trouves dans tous les clichés de films de
mais
prison.
Mais c'est un cliché assumé, c'est ça qui est rigolo.
Oui, sans doute, mais il n'y a pas tellement
il fait rire quand il part dans ses délires de chat cyborg et tout. Je trouve que c'est qu'il discute avec l'autre maton, c'est assez comique quoi. C'est
le type qui fantasme complètement. La référence à Witz, puisque c'est la même créatrice de Witz, j'aurais adoré voir le personnage de Witz, parce que c'est un peu Witz 10 ans après. J'aurais aimé avoir cette actrice là et ce ton là dans cette prison là. Tu t'attends à ça quand tu vois le pitch et le nom de la créatrice, et tu te retrouves dans un truc je trouve plus mièvre que Witz. Paradoxalement, je trouve que Witz, ça part dans des choses un peu plus trash, un peu plus rock'n'roll. Ici, ça allait finalement pas souvent, alors qu'il y a un terreau qui aurait forcément pu le permettre. Quoi.
Mmh. Le fait aussi, c'est qu'avec tous ces personnages, il y a énormément d'histoires aussi en même temps. Il y a ce qui se passe en prison, il y a l'histoire, souvent à chaque épisode, on prend une prisonnière et on retourne dans son passé. Puis il y a l'histoire aussi de l'héroïne avec son fiancé. Enfin, il y a comme ça, parfois, par épisode 3, 4 trucs qui se croisent. Et du coup, ça brouille un peu, on perd parfois en route. Enfin, voilà, c'est peut-être ça aussi le truc.
En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller en prison.
Oui, moi aussi, mais comme Macron.
pour te taper des codes ethnies, c'est ça.
Oh, bah, la copine, l'ex-copine de Chapa, elle était relativement sexy, je dois dire.
Elle a une tête énorme, elle est très inquiétante. Je détestais les faux sourcils, c'est le truc qui me fait très peur.
Tu préfères pas la petite grosse Gwyn avec rasé à l'arrière
Non, ni la petite Cato avec ses dents pourries. Ça, pas tellement. Je vais mettre 8, 7 et demi. Allez, pour cette série.
Moi, je vais mettre 6 en sachant que j'ai vu en français que j'ai sans doute perdu une grosse partie de l'intérêt de cette série.
Ouais, voilà, moi je mets 7 parce que j'ai pris du bon temps sans que ce soit une grande série mémorable non plus.
Un 7.
Alors, je dois vous dire que la première saison diffusée sur Netflix compte 13 épisodes et que la série, a été renouvelée pour une deuxième saison. Et ça, c'est chouette.
Sauf pour elle, ça veut dire qu'elle reste en prison.
Oui.
Sauf si c'est comme Prison Break, elle va peut-être s'évader.
Oh non,
pas
la Prison
S'il vous
Break.
Plaît.
Focus Store.
Bon, alors, en fin d'émission, on vous présente nos coups de cœur, nos petites marottes du moment. Le mien, c'est un film, La vie d'Adèle, présenté au FIF à Namur, le 27 septembre dernier, qui sortira en salle tout bientôt. J'imagine qu'on va en reparler lors de la prochaine émission.
En couverture.
Ah oui, dans et dans Focus, bah oui. La vie d'Adèle, c'est donc cette palme d'or cannoise, ce film d'Abdelatif Kechiche qui n'en finit pas de faire parler de lui pour de mauvaises raisons, ou de raisons pas très intéressantes en tout cas, mais qui reste au final... quand même un petit chef-d'œuvre, voire un grand chef-d'œuvre, parce que c'est long. Une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de plus simple, de plus pur, de plus beau, de plus triste. Une histoire entre filles, avec Léa Seydoux et surtout avec une incroyable Adèle Exarchopoulos, une jeune actrice qui était magnifique, avant ça à peu près inconnue. Mmh. Complètement dingue. J'ai rarement vu une actrice qui jouait aussi juste. Enfin, tout film confondu sur toute ma vie de cinéphile. Et un film qui sonnait aussi juste, aussi. Je vous en dis pas plus, à part peut-être que si vous êtes incommodé par les amours saphiques, il vaut peut-être mieux ne pas tenter l'expérience, parce que j'ai vu pas mal de petits vieux qui quittaient la salle complètement furieux pendant les scènes de sexe, qui sont pas nombreuses, je pense qu'il y en a trois, mais qui sont très longues et qui sont quand même relativement très explicites, donc voilà, chacun sa sensibilité, nous ne sommes pas là pour juger. Olivier.
Oui, mon coup de cœur, pardon. Alors, moi, je parlais d'une BD. On reste dans les amours saphiques, plus ou moins, puisque c'est la BD de Benoît Feroumont, une BD qui s'appelle Gisèle et Béatrice, et qui est sortie chez Dupuis Air Libre. Donc, on en a déjà dit un mot dans le magazine. Donc, on connaît Benoît Feroumont pour sa série Le Royaume, qui est une série tout public, très mignonne, dans un Moyen-Âge un peu fantasmé comme ça. Ici, rien à voir. C'est un roman graphique contemporain sur deux personnages, une qui s'appelle donc Béatrice, qui est sous la coupe d'un patron qui est en gros un sale con. En 3-4 pages, elle tombe sur un sort, un vieux sorcier, et hop, elle transforme son patron en magnifique blondasse qui vient des pays de l'Est avec un accent magnifique de Cracovie, si je me souviens bien. Et en fait, c'est un récit érotique qui est basé sur la domination, la soumission, puisque le personnage de Gisèle est elle-même un homme qui a été transformé, mais on lui a laissé le kiki. Donc c'est très, très chaud, mm-hmm. basiquement. Et pourtant, c'est une magnifique histoire d'amour. Et c'est là que Benoît Feroumont fait vraiment presque œuvre de salubrité publique, parce que son ambition, c'était ça. Il explique, je vais essayer de le faire rapide, il explique que l'idée de son bouquin, tous les dessinateurs font des dessins érotiques. Elle a un jour entendu une sexologue qui dit « Ne laissez pas l'érotisme aux pornographes ». Parce que c'est affreux, la pornographie est ce qu'elle est. Et donc, il faudrait que des artistes se réapproprient l'érotisme et en fassent quelque chose de beau. Et c'est exactement ce qu'il fait ici, avec une vraie histoire d'amour entre les deux personnages. Et son dessin, que l'on connaît tout mignon dans Le Royaume ou dans ses films d'animation, se prête magnifiquement.
Ah oui, parce que c'est dessin. Quasi du cartoon, en fait, quand on regarde
la couverture. Très mignon, c'est très beau. Et pourtant, il y a des vraies pages érotiques d'amour saphique. Et c'est très beau, c'est magnifique. Quand ça doit être érotique, ça l'est. Quand ça doit être sentimental, ça l'est. Donc,
il y a des zizi ou bien c'est juste entre filles.
Non, il y a quelques idées, puisque la Béatrice a gardé son kiki. Hein, c'est un peu compliqué, c'est vite réglé dans les 3-4 premières pages.
C'était une vraie question.
Si vos enfants aiment Le Royaume, a priori, il faut éviter de lui donner Gisèle et Béatrice, mais lui conseiller pour plus tard, quand il aura le recul nécessaire pour lire un bon roman graphique érotique, ce qui est très rare.
Laurent, le chef.
Eh bien moi, contrairement à tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, il n'y aura pas d'amour saphique dans le roman dont je vais vous parler.
Dommage.
Parce que c'est vrai qu'on est un petit
peu... Oui, c'est le thème du jour, en fait.
C'est le thème du jour. Donc je vais vous parler du roman de Richard Ford, Canada. Donc Richard Ford est cet auteur américain, un des plus grands aujourd'hui encore en activité, depuis la retraite de Philip Roth, qui est notamment l'auteur de la trilogie From Bascombe avec Indépendance et d'autres romans magnifiques. Et ici, il vient avec une nouvelle histoire qui est de nouveau une fresque de l'Amérique, qui est à la fois à mi-chemin entre le drame familial et le western. Mais le western philosophique à la Sergio Leone. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui pas très bien dans sa peau, ado, qui est entouré par ses parents, donc un couple mal assorti. Lui est un ancien de l'US Army, un retraité qui essaye de rebondir, et elle est une espèce de poète frustrée qui n'a pas pu faire ce qu'elle voulait de sa vie. Et sa vie, justement la vie du jeune homme, va basculer le jour où ses parents, et c'est annoncé, la couleur est annoncée dès le départ, donc je ne spoil rien, ses parents vont commettre un braquage alors qu'ils n'ont pas du tout le profil dans l'état voisin. Et lui va être obligé de s'enfuir. C'est le plan un peu que sa mère, le plan de sauvetage que sa mère avait prévu, ça entend un peu l'oignon. Et il va se retrouver au Canada auprès d'un bonhomme, un libertarien américain qui s'est exilé là-bas avec de
Canada anglophone.
Oui, tout à fait. Et donc là-bas, il va vivre une année dantesque où il va éprouver à la fois la trahison, la douleur. Il va être malmené. Et ce personnage ici raconte dans le futur. Il est au crépuscule de sa vie. Il revient sur cette année cruciale de son existence où tout a basculé, où il est devenu quelque part un homme, mais au prix de douloureux sacrifices à la fois par rapport à sa famille, ses illusions sur l'existence. Et donc c'est vraiment magnifique parce qu'à la fois c'est un état d'esprit, une espèce d'âme qui flotte sur tout le roman. C'est un roman d'initiation et c'est magnifique parce que ça entre en résonance avec la nature, puisque dans la deuxième partie la nature est vraiment très présente et réagit à l'humeur des personnages.
Il y a des zizi ou pas dedans?
Alors il n'y a pas vraiment de zizi, non. C'est plutôt prude de ce côté-là, mais il y a une très belle nature et c'est jouissif aussi,
mais d'une autre manière. Pas mal non plus. Et enfin, Laurent Brex.
Un petit CD
Oui.
Qui sort cette semaine, je pense. C'est l'album de Darkside. Donc Darkside, c'est le projet de Nicolas Jarre et Dave Harrington. Donc Nicolas Jarre, c'était ce américano-chilien qui avait sorti Space is Only Noise il y a 2 ans, qui était un disque électronique très éthéré, très un peu du Eric Satie comme ça, électronique. Et donc là, il revient avec un nouveau projet. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au printemps, ils avaient complètement remixé l'album de Daft Punk.
Oui.
Voilà.
Ah ben c'est voilà.
C'est qui n'a pas remixé Daft Punk? Mon voisin.
Nous. Oh.
Et donc là, ils arrivent avec un album qui est nouveau, donc un album électronique qui est nouveau, très calme, très éthéré, mais beaucoup plus ludique, beaucoup plus peut-être accessible, on va dire. Et on rentre dedans, on comprend pas tout, mais on se laisse, je trouve, très facilement emporter. Et c'est à la fois, il y a des côtés par moments très bluesy, très sexy, très, il y a pas d'easy, mais mais on peut avoir des rapports
de type
éventuellement
coito.
Sexuel, oui. sur cette musique. Je pense que ça pourrait assez bien fonctionner.
C'est parfait.
Zénalan, ancienne Belgique, mais c'est déjà complet.
Ah bon, alors. Voilà. Bon, ben voilà, hein. C'était le mot de la fin, c'est tout pour cette fois. Vous pouvez rallumer la télé et rouvrir le frigo. J'espère que ça vous a plu. Alors, questions, suggestions, commentaires, lettres d'amour et de haine sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/focusstore. Lisez-nous aussi et surtout avec le Vifle Express toutes les semaines en librairie. On vous embrasse, on fait ça?
Ouais. Oui, un gros kiss.
Et à bientôt. Salut, ciao.
Salut. Ciao.